Un coucher de soleil. Un coucher de soleil de ceux qu'on a vu mille fois, semble-t-il, un coucher de soleil de carte postale, vous savez, sur la mer ou sur l'eau. C'est le soleil couchant sur la Seine de Manet, mais c'est aussi le poster qui était dans la chambre de votre copine au collège, ou l'aimant sur le frigo de la prof de solfège, le même bleu du ciel qui s'assombrit, et dans le blanc gris des nuages, cette lumière, explosion de rouge, d'orange, de jaune, et le globe de feu qui descend sous nos yeux, sur la ligne de l'horizon Victor Hugo, l'heure où l'astre géant rougit et disparaît, et le tout se reflète évidemment, comme dans le tableau de Caspar David Friedrich. On se voit le contempler de dos, on n'a même pas besoin de le décrire tellement on le connaît, ce coucher de soleil, tellement c'est un cliché, tellement ce coucher de soleil, on l'a vu mille fois, en photo, en tableau, au cinéma, en poème aussi, comme le chantait Baudelaire. Et c'est un poème dont on connaît les strophes par cœur naturellement. Bienheureux celui-là qui peut, avec amour, saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve. Je me souviens, j'ai vu tout, fleurs, sources, sillons se pâmer sous son œil, comme un cœur qui palpite. Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, pour attraper au moins un oblique rayon, un coucher de soleil romantique au point de l'épuiser. Le soleil, le romantisme, le coucher, mais que peut-on faire d'un cliché ?
Boomerang, spécial Cannes.
C'est un endroit qui fait rêver le monde entier.
France Inter, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang à Cannes. Mon invité d'aujourd'hui sait comme personne filmer les couchers de soleil. En 1966, il remportait la Palme d'Or pour Un homme et une femme. Il présentera dimanche Les plus belles années d'une vie, où il orchestre en fait les retrouvailles 53 ans plus tard de cet homme et de cette femme qui ont bouleversé les spectateurs du monde entier. Le film sera projeté donc dimanche et sortira mercredi dans toute la France. Bonjour Claude Lelouch.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Avant toute chose, comment est-ce qu'on filme un coucher de soleil, tiens?
Ben, le coucher de soleil est intéressant, mais c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ceux qui le regardent. Je veux dire que le coucher de soleil dans les yeux, il est encore plus beau. Je veux dire que j'adore la nature, mais je préfère encore le genre humain. Je veux dire que j'aime bien ce que j'aime à Cannes, c'est les Cannois. Ce que j'aime en France, c'est les Français.
Et tout se joue chez vous dans le regard, j'ai l'impression. Oui. Quels ont été vos plus beaux couchers de soleil, de cinéma d'ailleurs?
Dans l'aventure, c'est l'aventure. Il y a un très joli coucher de soleil au début, comme ça, qui est en même temps le 300 millième coucher de soleil de l'histoire du cinéma.
Mais c'est ça, pourquoi est-ce que vous vous obstinez à les filmer? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier?
Bien, parce que c'est le générique d'une journée, et c'est le générique de fin. Je veux dire que j'adore le début et la fin des choses comme ça, et c'est vrai que les jours où je rate le coucher de soleil le matin, je me dis j'ai raté le début du film, et pourvu que je comprenne.
Mais pour le cinéaste que vous êtes, c'est aussi, j'en suis sûr, une question de lumière, non? C'est une lumière particulière?
Ben, c'est le plus grand chef opérateur du monde, hein. Il a un seul projecteur. Et si on va aussi vite que lui, on a la plus belle lumière du monde. Il faut le suivre.
Vous parlez de qui, là? Vous parlez du soleil ou de Dieu?
Oui, ils sont très proches, hein. Je pense que l'un habite dans le, je pense que Dieu habite dans le soleil, sûrement, oui.
C'est devenu effectivement une sorte de cliché de cinéma, vous le dites, particulièrement dans les histoires d'amour. Les clichés, Claude Lelouch, vous en faites quoi?
Ben, les clichés, c'est pas rien, c'est formidable de devenir un cliché. Ça veut dire quand même qu'on a marqué son temps, qu'on a laissé des traces. C'est formidable que la Tour Eiffel soit devenue un cliché.
Ça vous arrive de vous le dire que vous êtes devenu un cliché, vous?
Écoutez, ça me dérange pas d'être un cliché, pourquoi pas.
Et il se trouve que Les plus belles années d'une vie, votre nouveau film, se termine par un coucher de soleil et par un rayon vert. Si on reste jusqu'à la toute fin de ce plan, à quoi est-ce que vous avez pensé quand vous avez réalisé ce plan? C'est un petit hommage de cinéma, non?
J'ai pensé à Romère parce que c'est une des choses les plus difficiles à voir, c'est effectivement ce fameux rayon vert. Il faut un nombre incroyable de circonstances pour pouvoir le filmer, et comme on a eu la chance de l'avoir, j'en ai profité.
Il faut de la chance, c'est ça en fait?
Oui, enfin, vous savez, à chaque fois qu'on fait un film, c'est miraculeux, parce qu'à chaque fois, on soulève une armée, et c'est vrai que si on n'arrive pas à synchroniser tous ces talents, les choses se passent très très mal. Donc à chaque fois qu'un film est terminé, d'abord c'est un miracle, et quand il marche, c'est un double miracle.
Ce plan, il vient clore les retrouvailles entre les personnages d'Anouk Aimée et de Jean-Louis Trintignant, plus de 50 ans, on le disait, après leur séparation. Quelle vie est-ce qu'ils ont vécu, chacun de leur côté, avant de se retrouver? Faut peut-être nous donner des indices.
Non, c'est plus le portrait d'un galopin et d'une femme. Hein. C'est un homme quand même que... Moi, je pense que les hommes sont pas très fiables, que les femmes sont des hommes réussis. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans ce film. J'ai voulu montrer à quel point Anouk était fidèle à sa fidélité et que à quel point Jean-Louis commençait à avoir des regrets. Il dit tout le temps, j'ai pas été à la hauteur, il demande pardon. C'est très joli de voir un homme d'un seul coup plaider coupable. Et puis surtout, j'avais envie de filmer des enfants parce que à partir d'un certain âge, on retombe en enfance et il y a très peu de gens qui ont droit à une troisième mi-temps. Et donc c'est cette troisième mi-temps que j'ai eu envie de filmer, parce que c'est celle où on peut s'éclater, c'est celle où on peut tout faire, on peut plus rien nous interdire.
Mais entre nous, Claude, ces personnages, ils vous ont jamais quitté, en fait. Vous les aviez toujours dans un coin de votre tête.
Oui, ben j'ai grandi avec un homme et une femme, c'est un peu mon papa et ma maman.
Ah, hein. Carrément.
Ben oui, parce que c'est le premier film qui a marché. C'est le film qui m'a ouvert les portes de la liberté. C'est grâce à ce film que j'ai pu pendant 50 ans faire joujou avec le cinéma. Voilà. Et aujourd'hui, c'est formidable d'avoir fait le tour du monde des émotions. Comme ça, j'ai le sentiment de revenir à la maison, voilà, pour voir mon père et ma mère.
Mais ce qui est quand même dingue, c'est que, en fait, ce nouveau film, Les plus belles années d'une vie, il fait complètement table rase d'un film que vous aviez présenté ici à Cannes en 86, qui s'appelait Un homme et une femme 20 ans déjà. Pourquoi est-ce que vous avez fait comme s'il n'avait jamais existé, somme toute?
Parce que le temps était trop court. Je veux dire que le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe.
Ouais.
Si on résiste au temps, ça veut dire qu'on a une certaine valeur. Voilà. Et 20 ans après, c'était trop tôt. Ils avaient à peu près la même tête, ils disaient les mêmes choses. Ils étaient encore dans leur première mi-temps et on répétait les choses. Il y avait une répétition. Alors qu'aujourd'hui, ils ont une vie derrière eux et ils savent enfin de quoi ils parlent.
Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un plaisir aussi, une joie, une gloire à savoir oublier? Des films qui ont moins compté, Claude.
Oui, ben moi par exemple, je suis né avec Alzheimer, j'ai jamais eu de mémoire. Et ça me permet tous les jours de vivre les journées comme si je les vivais pour la première fois. J'arrive toujours à m'extasier. J'ai pas quitté l'adolescence, justement parce que j'ai pas trop de mémoire. Et si j'avais de la mémoire, je serais fâché avec la terre entière.
Mais il se trouve que l'oubli, la mémoire, le souvenir occupent une place très importante dans ce nouveau film où l'on se retrouve face à un Jean-Louis Trintignant qui perd la mémoire. Et le seul souvenir qu'il garde intact, c'est évidemment celui de son histoire d'amour avec le personnage d'Anouk Aimée. Et l'amour, Claude Lelouch, j'ai l'impression que vous le placez au-dessus de tout.
Et j'ai bien raison. Tout le reste, c'est des lots de consolation. Je veux dire que quand on a la chance, à un moment donné, de pouvoir aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule dans la générosité. Je pense que... Je veux dire que ma religion, c'est l'amour. Je veux dire que je suis amoureux de l'amour, parce que c'est vrai que j'ai trouvé à travers l'amour du cinéma, l'amour des femmes, l'amour d'une voiture, l'amour d'un frigo, enfin peu importe. Mais je veux dire qu'à chaque fois que j'ai été amoureux, j'ai eu le sentiment d'être en vacances. Et quand on n'est pas amoureux, on va au travail.
Mais là, c'est au cinéaste que je parle. Qu'est-ce que c'est une grande amour, une grande histoire d'amour au cinéma?
Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de partager avec le plus grand nombre, des fois le plus petit nombre, nos observations. Je veux dire que quand on repère quelque chose, à chaque fois qu'on repère quelque chose, on a envie d'en parler avec quelqu'un. Et grâce au cinéma, je peux effectivement partager mes observations avec un certain nombre de gens. Voilà, donc c'est grâce au cinéma que j'ai grandi. Je veux dire qu'il y a une vingtaine de films qui m'ont fait grandir, qui ont fabriqué ma personnalité, qui ont fabriqué le cinéaste que je suis. Et aujourd'hui, je pense à tous les petits cinéastes qui existent, à ces 7 milliards de gens qui filment avec leur portable et qui sont des cinéastes. On est tous des cinéastes. Vos yeux, c'est la plus belle caméra du monde. Votre mémoire, c'est la plus belle salle de montage. Voilà. Et nous sommes tous des cinéastes. Le cinéma est un art naturel. Et comme c'est un art naturel, c'est un art populaire. Et comme c'est un art populaire, un jour, un film très beau, merveilleusement, extraordinairement réussi, pourra changer beaucoup de choses en 2 heures.
Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. C'est la phrase qui structure, pour ainsi dire, votre film, Claude Lelouch. Est-ce que vous le pensez vraiment, ça? Est-ce qu'il n'y a pas un âge où on arrête de le penser?
Non. Non. Non, parce que cette phrase de Victor Hugo, je l'ai lue quand j'avais 20 ans. Et depuis l'âge de 20 ans, c'est vrai que toutes les secondes que j'ai vécues au présent ont été plus belles que celles que j'avais vécues au passé.
Mais la vieillesse, ça ne vous fait pas peur?
Pas du tout. Pas du tout, parce que je crois pas du tout à la mort, mais pas du tout.
Comment... Alors ça existe, hein, Claude, hein. la mort.
Il paraît. Il y a plein de gens comme ça. Non, vous savez, je crois qu'on a notre conscient et notre inconscient. Et on a une part de rationnel et une part d'irrationnel. Dans ce monde, tout a été fait pour développer notre part de rationnel. Notre part de rationnel, c'est notre intelligence qui a trop le sens des affaires, qui est trop pragmatique, qui pense à la fin du mois. Et on a une part d'irrationnel, notre inconscient, qui nous dit qu'on est immortel. S'il n'y avait pas cette part d'inconscient, l'idée de la mort serait totalement insupportable. La mort, c'est pour les autres, c'est les autres qui meurent.
Alors votre film, et par extension tous vos films, peut-être votre vie de cinéma, Claude, ce serait ça? Ce serait quelque chose à la gloire de l'irrationnel?
Oui. J'ai plus essayé de faire battre le cœur de mes spectateurs que leur matière grise. Je veux dire qu'à chaque fois que le cœur s'accélère ou ralentit, il est dans la vérité. Il triche pas. Le cœur et les yeux sont les deux parties de notre corps qui sont les plus passionnants, les plus intéressants. Les yeux parce qu'ils mentent pas, la bouche, avec votre parole on peut dire ce qu'on veut d'ailleurs, et des fois c'est très agréable. Le mensonge, c'est lui qui a inventé la vérité, mais les yeux ne mentent jamais. Et le cœur non plus. On ne sait pas pourquoi, mais si vous prenez la main d'une femme et que vous prenez son pouls au moment où vous lui dites « je t'aime », vous allez voir si ça marche ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et les accélérations sont subites, immédiates. Le cœur est un muscle extraordinaire qui a une intelligence folle, il est au cœur de toutes nos émotions. Je veux dire que c'est vrai, c'est pour ça que la musique a tant de succès, c'est pour ça que la musique est la star de mes films, parce que c'est elle qui fait décoller et c'est elle qui parle le mieux à notre cœur.
Vous savez que moi j'en connais une qui n'a aucun cœur dans cette émission, sans doute la connaissez-vous vous aussi, c'est évidemment la culture et son actualité qui a peur de tout, qui ne risque rien et qui par voie de conséquence n'a rien. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 17 mai?
This is a pyramid of glass.
C'est une pyramide en verre.
It's very transparent and open. It's made for life.
Voilà, c'est fait pour la vie, c'est fait pour la lumière.
Jour de paix, et l'architecte américain d'origine chinoise, Yao Ming-pei, est mort hier. Il avait 102 ans, mondialement connu, lauréat en 1983 du prix Pritzker, équivalent du Nobel pour l'architecture. Il avait été choisi par François Mitterrand pour réaliser la pyramide du Louvre, dont on célèbre les 30 ans de l'inauguration cette année. Maître des lignes géométriques et épuré, créateur de bâtiments aux silhouettes irrégulières, il avait notamment signé, en plus du monument parisien, le musée d'art islamique de Doha, la Banque de Chine à Hong Kong ou l'hôtel de ville de Dallas. La classe.
C'est votre livre préféré. Vous pensez encore que la vie est un roman? Puisque vous espériez trouver le bonheur dans les livres?
L'amour à la page, comme le veut la tradition, l'honorable jury du prix Renaudot a annoncé hier ses conseils de lecture de printemps. Une liste de 12 romans et 7 essais pour patienter jusqu'à l'automne romanesque et la première sélection du prix qui sera annoncée le 4 septembre prochain. Au menu notamment La sensuelle vilante d'Abdel Attaya, Les épatants furtifs d'Alain Damasio, L'éclairé Proust prix Goncourt de Thierry Laget et puis aussi Un monstre et un chaos, le nouveau roman d'Hubert Haddad qui ne sortira que fin août. Cet été c'est quand même un petit peu ballot pour une sélection de printemps, mais bon, parfois à Saint-Germain-des-Prés, on est hors du temps.
Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you.
De la soul, du hip-hop, des légendes et du kiff. Ce soir à 20h, les groupes cultes du rap américain des années 90, de la soul, le Wu-Tang Clan et Public Enemy investissent Bercy, l'Accor Hotel Arena de Paris pour un concert d'anthologie. Réunis sur scène dans le cadre de la tournée mondiale Gods of Rap, les trois formations ne feront qu'une seule étape en France avant de continuer leur tour en Allemagne, au Danemark ou en Suède. Et en bonus, Pollux, le Wu-Tang vient de livrer un mini-album de 7 titres dispo sur toutes les bonnes plateformes. Check it out.
Cannes, quatrième jour.
J'ai reçu ce matin un coup de fil du Festival de Cannes. Vous connaissez Cannes?
J'y suis allé en colo quand j'avais 7 ans.
J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation.
Et enfin, l'homme de la situation à Cannes aujourd'hui, ce sera assurément Pedro Almodovar, le flamboyant espagnol qui entre en compétition ce soir avec son très beau Dolor y Gloria porté par Penélope Cruz et Antonio Banderas qui était notre invité mardi. Compétition toujours, l'Autrichienne Jessica Osner vise la palme pour la première fois avec le futuriste Little Joe. Mais notre événement à nous, c'est la présentation à un certain regard du fantastique Papicha, chronique engagée pour raconter la quête de liberté d'une jeune Algérienne révoltée signée Mounia Medour qui nous promet une montée de toute beauté. Allez. Et Claude Lelouch, invité de Boomerang en direct à Cannes ce matin pour les plus belles années d'une vie. Ce film où l'on retrouve donc Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, on le disait un demi-siècle après Un homme et une femme. Un film qui nous transporte non seulement sur les planches de Deauville, mais aussi, mine de rien, sur une certaine croisette. Puisque c'est ici, à Cannes, qu'Un homme et une femme est entré dans l'histoire du cinéma. Quel regard, puisqu'on parlait de regard, est-ce que vous portez, vous, sur le jeune cinéaste que vous étiez alors, Claude ?
Un moment d'émerveillement, voilà, quand le miracle a eu lieu, je suis resté un petit peu interdit, j'ai pas compris ce qui arrivait. Il a fallu beaucoup de temps pour que je réalise ce qui s'est passé ce jour-là. Je me suis laissé porter, je comprenais pas, je savais pas si je rêvais, si c'était authentique. Je suis passé en une seconde de l'ombre à la lumière et c'est vrai que d'un seul coup, je me suis dit, tiens, peut-être que je suis vraiment fait pour faire du cinéma, peut-être que c'est le moment de mettre le paquet.
Pourquoi voilà. Parce qu'à l'époque, vous étiez quel cinéaste ?
Ben, j'ai quand même fait 6 films avant Un homme et une femme qui étaient boiteux, qui n'avaient pas trouvé leur public, comme on dit, voilà. Et donc, je me posais vraiment la question de savoir s'il fallait continuer. Et quand j'ai fait Un homme et une femme, j'avais décidé que ça serait ma dernière tentative.
Allons donc, Une nana Mouskouri.
Voilà, absolument. Et donc, j'avais, et c'est pour ça que j'ai pris tant de risques. Et c'est quand on prend des risques que que ça sourit, que ça rigole. Voilà. Donc là, j'avais plus rien à perdre. Et j'ai dit, bah allez, j'y vais, je mets le paquet, et ça a marché, voilà. Mais encore une fois, il a fallu, je pense que c'est les 6 premiers films qui ont été boiteux, qui ont inventé Un homme et une femme. Je veux dire que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'échec. La vraie monnaie de la vie, c'est la souffrance. Je veux dire que tout ce qui m'a fait progresser, tout ce que j'ai réussi, je l'ai d'abord raté. Je veux dire que l'échec, pour moi, est la plus grande université du monde, et je l'ai très vite compris, puisqu'il a fallu que je fasse 6 films avant qu'Un homme et une femme...
Vous en avez eu des succès, Claude Lelouch, puis vous en avez eu aussi des films boiteux.
Oui.
Est-ce que vous seriez pas dans le même état d'esprit, en fin de compte, que le jeune homme que vous étiez à l'époque, aujourd'hui?
Oui, rien n'a changé. Comme j'ai pas de mémoire, vous voyez, je suis toujours dans cette adolescence, mais c'est vrai que tous les jours, je me lève en me disant « qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui ? Quel suspense ?» J'ai le sentiment, chaque jour... De recommencer ma vie, voilà, et je m'amuse, et c'est vrai que depuis que je fais du cinéma, je suis en vacances.
Et qu'est-ce qui va arriver samedi soir, alors ?
Eh ben, tout est possible, vous savez, dans la vie, les choses se passent jamais comme on les avait imaginées. Évidemment, j'ose pas rêver trop haut. Autour de moi, la météo est plutôt bonne. Les quelques personnes qui ont vu le film sortent émues, bouleversées, me serrent très fort dans leurs bras. Je sens qu'ils ont l'air sincères, donc voilà, alors j'attends qu'on transforme l'essai samedi soir.
Ça sera dans une grande salle de cinéma, en tout cas la salle de cinéma, celle qui a connu toutes vos gloires. Quel lieu est-ce que c'est pour vous ?
Le cinéma ?
La salle de cinéma.
C'est le plus beau pays du monde.
C'est un pays ?
C'est le plus beau pays du monde. Quand sur l'écran, il y a la plus belle histoire, voilà, je pense que si on veut voyager à très bon prix, si on veut faire le tour du monde souvent, il faut aller au cinéma. Voilà, c'est le meilleur moyen de voyager.
Mais c'est un pays qui a de l'avenir pour vous, la salle de cinéma, à l'heure de Netflix, de la VOD, des films qu'on regarde chez soi, sur un écran d'ordinateur ou même sur un écran de smartphone, Claude ?
Et comment ?
Il y en aura encore des salles de cinéma.
Et comment ? Parce que pour l'instant, tout ce qu'on nous propose, c'est minimaliste. Je veux dire que voir un film, vous savez, je prends souvent l'exemple de Roma, qui est un chef-d'œuvre sur grand écran.
Le film d'Alfonso Cuarón, oui, qu'on a pu voir sur Netflix en France.
Et qui est irregardable sur Netflix.
Irregardable ?
Irregardable et très long. Oui, alors que sur un grand écran, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, donc c'est bien la preuve que le grand écran va rester l'endroit où... moi, j'ai été élevé à la grande salle de cinéma, j'ai été élevé sur des écrans géants de 500 mètres carrés, et je vois pas comment je pourrais aujourd'hui regarder un film sur tous les médias qu'on nous propose. Non, le cinéma a un très très bel avenir, et plus il y aura de petits écrans, plus le grand écran sera fort.
Défendre l'existence des salles de cinéma, est-ce que vous diriez, Claude, que c'est le même combat que celui que vous menez pour la défense de l'exception culturelle française, comme en témoignait d'ailleurs une lettre que vous aviez adressée au président de la République il y a quelques semaines ?
Mais tout à fait. Aujourd'hui, il faut protéger le cinéma d'auteur. Parce que le cinéma d'auteur, c'est le cinéma de demain. C'est celui qui invente le cinéma. Le cinéma d'auteur, c'est un cinéma sans intermédiaire. De Chaplin à Guitry, en passant par Audiard, en passant par Pagnol.
Et jusqu'à vous.
Et jusqu'à moi, et à Truffaut, et toute la bande que j'oublie. Mais c'est vrai que, grâce à ces hommes qui étaient un peu plus curieux que d'autres, leur curiosité nous a permis de laisser des traces, et des traces sur lesquelles on peut marcher. Je veux dire que... tous les grands films que j'ai vus m'ont fait gagner des années et des années.
Mais vous avez une réponse d'Emmanuel Macron, parce que c'est bien quand il y a une correspondance quand même.
Oui, alors Macron nous a promis de nous rencontrer très très vite, justement, pour protéger ce cinéma d'auteur, qui est le cinéma... Le cinéma d'auteur, c'est l'Institut Pasteur des émotions.
Mais très très vite, ça fait un mois et demi, là, Claude.
Oui, mais je pense qu'il attend que le Festival de Cannes se termine. Et je l'ai rencontré il y a 3 jours et il m'a promis qu'on allait se voir très vite.
À l'époque d'un homme et une femme, comment se portait cette exception culturelle? C'était mieux?
Oui, oui, parce que le cinéma d'auteur était très respecté. Je veux dire qu'il y avait Fellini, il y avait toute la bande, tous ces gens qui faisaient des films, Antonioni, ces gens-là pourraient plus faire les films qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, les forces de l'argent ont récupéré les auteurs. On essaye de nous faire croire à des machines artificielles, à des intelligences artificielles qui ont plus d'émotions que les humains. Or, pour parler des humains, il faut être un humain. Il n'y a qu'un humain qui peut parler de l'humain. Les machines, aujourd'hui, pourront pas remplacer nos observations. C'est pour ça que je crois à cette bataille. Je crois à cette bataille et j'ai très, très envie de soutenir de plus en plus ce cinéma d'auteur qui est le seul qui nous fait comprendre la vie. Et on a besoin de la comprendre parce qu'elle est de plus en plus compliquée.
Vous savez qu'on va reparler ensemble d'humains, d'émotions et de cinéma juste après. Pourquoi s'en priver, tiens, Nicole Croisy et Pierre Barou, en 1966, bah évidemment que vous la connaissez, la chanson. Je suis sûr que vous la chantez parfois sous votre douche ou dans votre bain, je me trompe?
Mais bien sûr.
Vous êtes sur France Inter avec Claude Lelouch. Vous écoutez Boomerang à Cannes.
Comme nous. Chante tout babadabada, babadabada, nos cœurs y voient babadabada, babadabada, comme une chance, comme un espoir, comme nous voient babadabada, babadabada, nos cœurs y croient babadabada.
Ici pour fêter le cinéma.
Augustin Trapenard.
Bah croyez-moi, il a rien de louche, hein. Il est même tout le contraire. Droit dans ses bottes, le cheveu bouclé chevreau, le regard fier, franc, fonceur, le genre d'homme à déplacer des montagnes, à creuser à main nue un tunnel sous la Manche, à mettre la mer à sec, à sauver un peuple. Y a rien de tel avec son petit polo gris là ce matin et avec son blouson beige, j'ai le même en plus. Claude Lelouch, invité de Boomerang à Cannes pour les plus belles années d'une vie qui sera projetée samedi en séance spéciale hors compétition, un film avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant tourné en seulement 13 jours, Claude. Pourquoi cette urgence-là?
Parce qu'il fallait pas faire semblant, parce qu'il fallait filmer la vie. Et dans la vie, on a droit qu'à une prise. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut faire plusieurs prises. Et là, j'avais envie vraiment que ce film filme la vie comme je ne l'avais jamais filmé. J'avais envie que les acteurs fassent tout sauf du cinéma. J'avais pas envie de filmer un acteur et une actrice. J'avais envie de filmer un homme et une femme. J'avais envie de montrer cet homme et cette femme avec leurs cicatrices, leurs souffrances, leurs joies, voilà. Et ce qui fait que la vie est ce qu'elle est et que je l'aime de plus en plus malgré tous ses défauts. Voilà. Donc et puis Trintignant qui a aujourd'hui peut-être la plus belle voix du cinéma parce que. C'est peut-être la seule chose qui lui reste vraiment, et donc il la travaille encore un peu plus. Et
précisément, quand vous filmez son corps, vous voyez quoi, Claude, à Jean-Louis Trintignant ?
Ben, je vois le temps qui passe, je vois le temps qui passe, et c'est marrant parce que le visage, ils ont, Anouk et Jean-Louis ont exactement le même âge. Et autour du visage de Jean-Louis, on sent que la mort rôde, alors qu'autour du visage d'Anouk, c'est la vie qui rôde. Et c'est ce match entre la vie et la mort que j'avais envie de filmer.
C'est terrible.
Non, parce que la vie a toujours raison, et c'est elle qui triomphe de la mort.
C'est ça la profonde et l'émouvante beauté des gros plans que vous proposez ?
Oui, parce que, encore une fois, j'ai voulu filmer leurs yeux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans les yeux qu'on trouve la vérité. Et c'est vrai que moi-même, pendant le tournage, quand je regardais, quand je filmais les yeux de Jean-Louis et d'Anouk, j'avais le sentiment qu'il y avait des parfums de vérité qui allaient bouleverser les gens qui seraient dans la salle. J'ai construit ce film pour que les spectateurs deviennent des acteurs. Je veux dire qu'on peut pas voir ce film en étant spectateur.
Justement, Claude Lelouch, qu'est-ce que c'est un acteur pour vous, en fin de compte ?
Un acteur, c'est un enfant. C'est quelqu'un qui aime le jeu. C'est quelqu'un qui, à force de faire semblant, n'a plus envie de faire semblant. C'est quelqu'un qui se pose mille et une questions et qui a besoin d'un metteur en scène pour se cacher derrière un bouclier, derrière des dialogues, pour prendre encore plus de risques. C'est les gens que je préfère au monde parce qu'ils font cadeau de leur vie. Ils vous font cadeau de leurs émotions. J'ai rarement vu un grand acteur heureux dans la vie. Et c'est pour ça que je les aime. Parce que pour plaire au public, ils sont prêts à foutre leur vie en l'air.
Dans le film de votre propre vie, où le metteur en scène, ce serait le soleil. Tiens, Claude, quel genre d'acteur est-ce que vous avez été, vous ?
Moi, écoutez, on m'a confié il y a 81 ans le rôle de Claude Lelouch. Et c'est un rôle que j'aime bien.
Ah, c'est vrai ?
Qui m'amuse de plus en plus. Je ne pensais pas qu'on pourrait faire autant d'acrobatie à la même personne.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien.
Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal ?
Pourquoi pas ?
Mais dites-moi, vous avez jamais pensé à être comédienne, vous aussi ?
Oui, mais vous savez, ça m'aurait ennuyée.
Pourquoi ?
Je sais pas, parce que. Il faut un peu. Faut pas trop. Je sais pas, il faut.
C'est pas tellement difficile quand même de jouer la comédie, non ? C'est pas plus difficile que d'être script ou monteuse finalement, non ?
Ah oui ?
Je crois, je sais pas, moi je connais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, parce que vous êtes spectateur, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je sais pas, moi je crois que c'est pas tellement difficile sans les.
C'est pas une question de que ça soit difficile ou pas, quoi. C'est. Chacun son métier, non ?
Mais vous êtes tellement ému, Claude, quand vous écoutez ce dialogue mythique d'un homme et une femme.
Ce sont des flashbacks de 50 ans, comme ça, et c'est vrai que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas trop de mémoire, ça me permet de revisiter comme ça des gens, comme ça, et des émotions.
Non, enfin, cette scène, vous ne l'avez pas oubliée, elle est dans votre nouveau film aussi, puisque les deux films dialoguent.
Oui, oui, ben non, ce qui est amusant dans le film, c'est que j'ai pu mélanger leur voix d'il y a 50 ans à celle d'aujourd'hui.
Oui.
Et voir à quel point les voix n'ont pas changé.
Et le cinéma, on le prend assez au sérieux aujourd'hui ?
Oui, je crois. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai toujours pris comme un jeu formidable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le cinéma a aujourd'hui toutes les vertus pour nous permettre de gagner beaucoup de temps et de passer de la barbarie à la civilisation très vite.
Pour vous, Claude Lelouch, et c'est ma dernière question, c'est quoi ? Une belle image de cinéma.
C'est une image qu'on a envie de revoir. C'est comme les gens qu'on aime bien, on a envie d'aller les voir. Il y a les films qu'on va voir, puis il y a ceux qu'on va revoir.
C'est pour ça que vous rejouez Un homme et une femme aussi ?
Peut-être. Et puis parce que je pense que les gens seront heureux de retrouver des gens qu'ils ont aimés et qui leur ont montré qu'on avait droit à plusieurs chances dans la vie.
Merci infiniment, Claude, d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Les plus belles années d'une vie, en sélection officielle, hors compétition, sera projetée samedi, sortira mercredi, dans toute la France. C'est absolument bouleversant. Évidemment, sinon vous seriez pas là, je vous aurais pas invité, moi.
Mais je me doute bien.
Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what to do to me. The wave of love is a transient hug. The water's the shell and or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's all
Harding sur France Inter, ce que c'est beau ça.
Ah mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ah ouais, j'ai adoré cette chanson. Salut Augustin.
On l'adore ou pas?
On l'adore. Augustin à lundi, salut.